Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à votre magazine des Nations Unies. Mathieu Ngunjolo a quitté à la Cour pénale internationale. Le verdict est tombé mardi dernier. Dans ce magazine, vous suivrez quelques explications du chargé de communication du bureau de la CPI à Kinshasa. La communauté internationale a célébré mardi dernier la journée internationale des migrants. Laurent Debeuc, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, sera notre invité. Jean-Pierre Elali Coco le reçoit tout à l'heure. Il nous parlera de la politique de son organisation en faveur des travailleurs migrants congolais. L'ABAD prépare son document stratégique pays en RDC pour les 5 prochaines années. Nous allons décortiquer dans un instant certains concepts relatifs à ce projet avec le représentant résident de cette institution financière. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La chambre de première instance 2 de la CPI a acquitté le mardi 18 décembre Mathieu Ngunjolo Choui de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre. Ces crimes auraient été commis lors de l'attaque du village de Bogoro en République démocratique du Congo le 24 février 2003. La chambre de première instance 2 de la CPI a estimé que le procureur n'avait pas démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que Mathieu Ngunjolo Choui était responsable des crimes qui ont été commis lors de cette attaque. Honoré Missenga Kalala pour les détails.
La décision d'acquitter Ngunjolo a été prise à l'unanimité de la chambre composée du juge président Bruno Cotte de nationalité française, de la juge Fatoumata Dembélé Diarra malienne, ainsi que de la juge belge Christine Van Dead Winget. Mathieu Ngunjolo était accusé notamment d'avoir mené avec Germain Katanga une attaque meurtrière contre le village de Bogoro à Nisouri. C'était le 24 février 2003. Le 7 février 2008, Ngunjolo est transféré à la CPI, quelques mois après Germain Katanga transféré lui le 17 octobre 2007. Le 24 novembre 2009, le procès s'ouvre pour les deux ex-seigneurs des guerres et le 18 décembre 2012, donc c'était mardi dernier, le verdict tombe pour Mathieu Ngunjolo, il est acquitté. Ce dernier serait-il en droit d'exiger de la CPI d'être indemnisé pour le temps passé en détention? Paul Madidi, chargé de la communication à la CPI, bureau de Kinshasa.
En fait, ce que l'opinion doit retenir, c'est que le statut de Rome ne prévoit pas d'indemnisation pour les personnes acquittées. Sauf si une erreur judiciaire manifeste et grave aurait eu lieu ou que l'arrestation de l'accusé, donc de M. Ngunjolo, ou sa détention, était illégale. Si, par exemple, M. Ngunjolo peut prouver qu'il y a eu erreur manifeste ou grave pendant le procès, s'il peut prouver également que son arrestation et même sa détention étaient illégales, alors seulement on peut arriver peut-être à une forme d'indemnisation. Or, ce n'est pas le cas en ce qui concerne M. Ngunjolo.
Mathieu Ngunjolo acquitté, quel sort la CPI réserve-t-elle maintenant aux victimes des crimes qui auraient été commis, ainsi qu'aux témoins qui ont été entendus dans cette affaire? Il faut encore Paul Madidi.
En ce qui concerne par exemple les victimes, si les victimes qui étaient autorisées à participer à ce procès font la demande de faire appel, évidemment, il reviendra aussi au juge de la chambre d'appel de se prononcer sur leur possible participation à l'appel et aux modalités éventuelles. Quant à ce qui concerne les témoins, les juges ont ordonné au greffe de la Cour pénale internationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la protection des témoins continue à être assurée en application de l'article 68 du statut de Rome.
Selon le porte-parole de la CPI à La Haye, Mathieu Ngunjolo pourrait y rester encore un certain temps au centre de détention, le temps que le greffe prenne des dispositions pratiques de sa libération.
Sachez que la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rejeté le jeudi 20 décembre la requête du bureau du procureur de maintenir Mathieu Ngunjolo Choui en détention jusqu'à ce que la chambre statue sur son appel contre la décision de libération immédiate suite à l'acquittation de l'intéressé. Conformément aux prescriptions de la chambre de première instance 2, le greffe a commencé à mettre en œuvre les dispositions appropriées en vue de la mise en liberté de Ngunjolo en tenant compte de son avis. Cette libération pourrait avoir lieu dans un État qui est tenu de le recevoir ou dans un autre État qui accepte de le recevoir.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une mission de la Banque africaine de développement BAD a achevé vendredi dernier à Kinshasa des consultations avec les différents partenaires au développement en vue de préparer le document stratégique pays 2013-2017. Valentin Zongo, représentant résident de la BAD, décortique pour nous les concepts tels que document stratégique pays et thèmes transversaux. Il jette aussi un regard prospectif sur le document stratégique pays des 5 prochaines années en RDC. Il répond aux questions d'Agathe Mponaminga.
Monsieur Valentin Zongo, bonjour.
Bonjour madame.
La Banque africaine de développement en RDC a entamé depuis lundi une mission de préparation du document stratégie pays pour la période 2013-2017. Peut-on d'abord avoir un petit bilan de votre stratégie pays pour les 5 dernières années?
Merci beaucoup. C'est vrai, 5 ans ça paraît long, mais somme toute c'est une période relativement courte. Nous avons été en mesure au cours de cette période d'investir dans ce pays l'équivalent de 529 millions de dollars à peu près, qui ont donc été mobilisés pour financer des opérations nationales et à caractère régional. En termes de répartition, il y aurait 372 millions pour l'appui aux opérations nationales et à peu près 141 millions mobilisés pour les opérations régionales. En plus de ces montants, il y a eu aussi à peu près 13 millions de dollars américains mobilisés pour soutenir les projets des forêts du bassin du Congo. Qu'est-ce qu'on a eu comme réalisation physique avec ces sommes? Nous avons été en mesure de construire ou de réhabiliter environ 164 000 kilomètres de route, 140 000 kilomètres de pistes ont été réhabilitées, 375 sources d'eau ont été aménagées, 32 marchés ont été construits, 42 entrepôts pour le commerce au niveau des différentes dessertes et 3000 mètres linéaires de canalisation installés au profit d'environ 150 000 personnes supplémentaires en termes de dessertes en eau potable et assainissement. Il y a également au niveau de Kasangalou, de Chikaba, de Lissala, une opération qui est toujours en cours.
Vous avez donc investi dans l'eau, dans les routes, et quels sont les différents secteurs de la vie nationale qui intéressent la BAD pour les 5 prochaines années? Ce sont les mêmes ou il y a d'autres secteurs que vous voulez inclure?
Nous sommes une banque. Quand nous regardons la République démocratique du Congo, nous réalisons que c'est un pays géostratégiquement bien situé en Afrique centrale, donc un pays important au niveau de l'intégration régionale, un pays qui est doté d'énormes potentialités au niveau de ses secteurs productifs de l'économie. Ce que nous entrevoyons, c'est la difficulté que cette économie et ce potentiel ont à trouver des infrastructures qui rendent attractif l'investissement productif au niveau du pays. Donc nous voulons, par ces investissements dans des infrastructures, pendant une période assez longue, favoriser la compétitivité de l'investissement productif qui permettrait donc des exploitations agricoles, des petites et moyennes entreprises qui créeraient de la richesse et en même temps créeraient de l'emploi.
Le secteur des infrastructures est donc un secteur qui intéresse beaucoup la BAD, mais vous avez aussi pensé, vous nous aviez dit, que vous insisterez aussi sur les thèmes transversaux. Qu'est-ce que signifie ce concept?
Il y a effectivement ces thèmes transversaux. Vous savez que dans tout ce que nous faisons, nous devons veiller à la préservation de l'environnement. Surtout au niveau de l'Afrique centrale, ce pays, on se réfère à ces forêts-là comme le poumon vert de l'univers. Donc tout ce que nous faisons doit permettre de respecter ces vocations naturelles de ces habitats particuliers-là avec des actions donc qui tiennent compte de la biodiversité, de la préservation de l'environnement. Ça, c'est un thème transversal. Le deuxième thème, c'est la parité. hommes-femmes, les questions de genre, nous devons veiller à ce que des groupes qui peuvent être défavorisés par les traditions, par les contextes, puissent avoir une certaine émergence en appui avec les activités que nous finançons, soit par la sensibilisation, soit par des financements appropriés qui permettent à ces groupes défavorisés d'avoir également une part à l'activité de développement économique.
Vous aviez dit aussi tantôt que la BAD pensait prioritairement favoriser le secteur privé. Comment cela va se passer concrètement ?
Aujourd'hui, le secteur privé fait face à deux principaux obstacles. Le premier obstacle, c'est la mauvaise qualité de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Il y a aussi le poids du manque des infrastructures. Un investisseur étranger qui souhaite créer une entreprise dans la situation actuelle doit ajouter à son coût d'investissement, par exemple, le coût de la fourniture d'énergie, s'il en a besoin pour fonctionner de manière continue, étant donné la capacité actuelle du réseau, il va ajouter à son investissement le coût de la fourniture d'énergie. Donc, nous disons que ce secteur privé est très attentif à l'amélioration de l'environnement des affaires, du climat des affaires.
Une autre question, c'est de savoir si les problèmes de gouvernance que connaît la RDC, parce qu'il y en a, les problèmes de gouvernance que connaît la RDC, est-ce que ça ne fait pas peur à la BAD? Il y a des partenaires au développement de la RDC comme le FMI qui ont eu à s'en plaindre.
Si nous devions avoir peur des difficultés, je pense qu'on n'aurait pas d'activité. Le manque de gouvernance n'est pas particulier à ce pays. Si vous regardez tout le continent, vous verrez que un peu partout, c'est un problème qui est présent et qui revêt des caractères différents selon les pays.
Pour finir sûrement cette interview, à combien s'élève l'enveloppe que la BAD met à la disposition de la RDC dans sa stratégie pays 2013-2017?
La banque a plusieurs guichets. Il y a le guichet qui intéresse au premier plan la République démocratique du Congo, c'est le guichet du Fonds africain de développement des ressources concessionnaires. Nous estimons que au cours de cette période quinquennale, la banque pourra apporter au niveau de ses appuis environ 780 millions de dollars américains au niveau du guichet du Fonds africain de développement. Mais en plus de ces ressources-là, nous avons également le guichet du secteur privé de la banque. Donc, notre guichet du secteur privé pourrait avoir des concours à apporter aux acteurs privés.
Monsieur Valentin Zongo, merci de nous avoir accordé cette interview.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'adresser à la population.
Les agriculteurs des districts transfrontaliers de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont bénéficié de cette semaine d'une formation de renforcement de capacité. Elle a été organisée par la FAO. Cette formation s'est tenue à Bukavu, dans le sud Kivu. Elle a porté notamment sur les nouvelles technologies agricoles en matière d'intrants et sur la bonne gouvernance. L'objectif pour l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation est de garantir la sécurité alimentaire dans cette partie du pays. La police nationale congolaise compte ses premiers éléments formés aux techniques de l'informatique dans le cadre du partenariat avec la police de la MONUSCO, UNPOL. 25 officiers formés à Kinshasa ont reçu leur brevet mardi 18 décembre à l'issue d'une session qui a duré un mois. Cette autre session va suivre jusqu'en juin 2013 pour un objectif de 200 policiers formés au maniement de l'ordinateur. Cette formation s'étendra sur l'ensemble du personnel de la PNC du pays. Restons à la MONUSCO pour vous signaler que son unité Outreach organise depuis le 17 décembre dernier des sessions d'information dans le cadre des efforts visant à vulgariser le mandat de la mission. Ces sessions d'information iront jusque fin janvier 2013. Elles sont destinées notamment aux groupes et aux mouvements des étudiants, des femmes et d'autres catégories de jeunes. Enfin, dans l'humanitaire, le programme alimentaire mondial PAM a entamé mercredi la distribution des vivres aux 38 000 personnes rentrées dans leur village à Rutshuru, dans le Nord Kivu. Cette distribution est une assistance apportée aux retournés, le temps pour eux de se remettre à leurs activités génératrices de revenus.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La communauté internationale a célébré mardi dernier la Journée internationale des migrants. À Kinshasa, une cérémonie commémorative a été organisée pour la circonstance dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Laurent Debouc, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, est notre invité. Il revient sur le thème de cette journée, la politique de son organisation en faveur des migrants congolais et sa coopération avec le gouvernement de la RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Laurent Debouc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo. La communauté internationale célèbre aujourd'hui même la Journée internationale des migrants et avec le thème « Les travailleurs migrants en crise ». Que vous inspire à ce thème dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo, notamment avec la crise qui se passe à l'Est?
Bien, je crois effectivement que le thème qui a été choisi par notre directeur général pour le monde entier cette année peut trouver ici malheureusement quelques liens étroits. La crise qui sévit actuellement à l'Est déplace un certain nombre de personnes, mais également des travailleurs, des personnes qui sont là pour pouvoir gagner leur vie et qui perdent un certain nombre d'avantages à travers cette crise. Le déplacement donne et suscite malheureusement la perte de beaucoup d'avantages économiques pour les personnes. Alors que ce soit des personnes qui sont issues de certaines régions, dans certaines provinces au sein de la République, qui doivent quitter, qui doivent bouger, qui perdent leurs avoirs, qui perdent leurs racines, mais aussi des étrangers qui travaillent ici et qui doivent quitter sans pour autant avoir une perspective d'avenir. Donc je crois que malheureusement, la situation qui sévit à l'Est trouve ici toute la raison d'être dans le sujet qui était choisi par notre organisation pour cette année.
Vous êtes chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo. Combien estimez-vous le nombre d'immigrants congolais à l'étranger?
C'est une question très compliquée, dans la mesure où il n'est pas toujours simple de pouvoir identifier les personnes qui vivent à l'étranger. Donc nous avons essayé de travailler dans ce domaine pour pouvoir identifier des ressortissants, mais les statistiques varient entre 3 à 6 millions de Congolais. La difficulté, je crois, repose sur le fait que les Congolais ne veulent pas nécessairement s'inscrire au sein de leurs ambassades.
Et pourquoi ils ne veulent pas s'inscrire?
Je crois que c'est comme dans énormément de pays, il n'y a pas nécessairement une confiance qui est établie entre certaines personnes qui quittent leur pays et les représentations de leur pays à l'étranger. On retrouve ça dans tous les pays du monde, donc ce n'est pas propre au Congo en particulier. Donc c'est le fait que les personnes, alors s'ils ne sont pas inscrits aux ambassades, on ne peut pas savoir si... On ne peut pas les dénombrer. Il faut alors calculer le nombre de ressortissants qui demandent l'asile, qui sont là en train de travailler en migrant. Donc il faut... Et c'est ce qu'on retrouve partout dans le monde, entrecouper différentes statistiques pour avoir et arriver à une estimation.
Vous savez que les migrants rencontrent beaucoup de difficultés lorsqu'ils viennent, ils arrivent dans les pays d'accueil ou même le pays d'asile. Et parmi ces difficultés, il y a aussi il y a ce qu'on appelle le chômage. Et est-ce qu'il y a une politique pour l'OIM, pour ces gens de Congolais qui quittent leur pays et qui s'installent à l'étranger, qui sont confrontés à ces difficultés-là?
Alors, dans le cadre des ressortissants qui vivent à l'étranger, qui s'inscrivent sur le marché de l'emploi, notre organisation essaie d'assurer qu'il y ait une protection et qu'ils puissent bénéficier des services qui sont offerts dans chacun des pays. S'ils s'installent dans un pays où il existe une certaine loi de protection sur les travailleurs, on essaie de garantir la possibilité qu'ils puissent en bénéficier. Donc, s'ils s'installent dans des pays où ce n'est pas le cas, on travaille avec le gouvernement pour pouvoir assurer la protection des travailleurs migrants. Donc, c'est un travail de plaidoyer, de développement de législation, d'assurer une formation auprès des personnes qui doivent mettre en application les lois pour qu'elles puissent effectivement les mettre en application et que chacun des migrants puisse en bénéficier. Il est aussi nécessaire de travailler sur l'information des migrants, parce que beaucoup de migrants qui quittent leur pays ne connaissent pas nécessairement les conditions de travail, les législations ou les droits et obligations qu'ils auraient dans les pays d'accueil ou les pays de destination.
Est-ce que lorsque vous parlez de la formation, vous avez commencé quelque part ou bien c'est un projet?
Non, on fait ça à différents titres, dans divers pays. Ici, au Congo en particulier, oui, ce sont des projets qui ont été menés déjà depuis plusieurs années. On a aussi augmenté les capacités de certains services en particulier, comme le ministère de l'Emploi et du Travail, mais aussi au sein du ministère des Affaires étrangères, où on a aidé à la création d'une maison spécialisée sur les Congolais de l'étranger qui informe des conditions de travail.
Et là, nous entrons de plein pied dans la coopération avec la République démocratique du Congo en matière de migration. Est-ce que vous pouvez faire l'état des lieux de cette coopération entre votre organisme et la République démocratique du Congo?
Nous sommes très heureux de la coopération dont nous jouissons avec les différentes autorités du gouvernement. Nous avons des travaux plus particuliers qui sont établis avec certains ministères. C'est le cas du ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Emploi, le ministère du Genre, différents à divers titres, puisque nous estimons qu'une bonne gestion de la migration nécessite une approche interdisciplinaire. Ça veut dire que nous devons impérativement travailler avec différents départements ministériels pour assurer qu'ils puissent avoir une bonne compréhension, un bon échange d'informations qui permettent alors l'application de certaines lois ou le développement de politiques migratoires.
Donc jusque-là, M. Debock, je comprends qu'il s'agit tout simplement de projets, donc il n'y a pas quelque chose de concret qui est fait, mais il y a aussi le MIDA qui est un projet belge. Est-ce que vous êtes aussi belge? Est-ce que vous pouvez parler de ce projet par rapport à la gestion même des flux migratoires en République démocratique du Congo?
Oui, d'abord, je dois dire, nous avons beaucoup de projets en cours, donc beaucoup de programmes de soutien et de travail avec les Congolais, avec les autorités, avec les migrants. C'est particulièrement le programme qu'on appelle MIDA, qui est financé par la Belgique, ne concerne pas nécessairement et uniquement les Congolais qui sont en Belgique. C'est un programme qui favorise la mobilisation de la diaspora congolaise, où qu'elle soit à travers le monde. Donc, le programme permet d'identifier les besoins d'abord dans le pays ici, à travers des consultations de différents services, qu'ils soient publics, privés ou de la société civile, pour savoir quels sont les manques qui doivent être apportés et comment la diaspora peut combler ces manques à travers l'aller et venu ici pour partager leur expertise, soit des formations pour essayer de partager ce qu'ils savent et qui puisse être reproduit ici dans les universités, mais aussi au niveau technique et du travail, soit en offrant directement leur expertise. Par exemple, d'un médecin peut venir former à l'université, mais également soigner la population. Donc ce sont des mécanismes qui sont en place depuis 2001. Avec une mobilisation de la diaspora, nous avons pour l'instant une banque de données de plus de 1000 personnes à travers le monde, des Congolais qui ont estimé important de se mobiliser et de faire ce processus de partage de connaissances temporaires.
Lorsqu'on parle d'immigration, on ne voit pas seulement les effets négatifs, mais il y a aussi quelque chose de positif sur le plan économique. Est-ce que vous pouvez, à l'heure actuelle, estimer l'apport économique de la diaspora congolaise, donc disons des migrants congolais qui sont à l'étranger, sur l'économie de la République démocratique du Congo? Vous avez une idée là-dessus?
Non, malheureusement, nous n'avons pas encore de connaissances très détaillées sur ce processus. Nous allons entamer maintenant des travaux par lesquels nous allons essayer de mobiliser des financements de la part de la diaspora vers des projets d'investissement ici qui peuvent être générateurs de revenus. Donc nous voudrions aussi travailler à ce titre sur la formation des bénéficiaires de ces apports financiers pour qu'ils puissent bien les gérer. On a remarqué dans le monde, malheureusement, il n'est pas suffisant que de mobiliser les finances de la diaspora, il est aussi nécessaire d'assurer que les membres de la famille qui en bénéficient puissent réellement en faire un moyen de générateur de revenus.
Laurent Debout, Congo, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup.
Direction le Sud Kivu, précisément à Minova, où le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, a remis 2 tonnes de médicaments et de matériel pour la prise en charge de la santé maternelle dans la zone de santé de cette juridiction. C'était mardi dernier. Ézéchiel Batoumike de la radio Boubamdano nous en parle.
Des centaines de cas d'accouchements anormaux sont enregistrés dans les aires de santé des groupements Mbinga Nord et Bouzi, en territoire de Calais et dans le site Kivu. Selon le chef de bureau de UNFPA Bukavu, ce don est destiné non seulement aux femmes déplacées, mais aussi à la population locale. Il est remis en cette période pour répondre aux traumatismes dont ont été victimes les habitants de ces deux groupements, indique Théographie Afika Djimba. Cette affirmation est soutenue par le coordonnateur national de camp qui a mené des plaidoyers auprès de UNFPA pour Justin Kabanga, il ne s'agit pas d'un projet, mais plutôt une réponse urgente à la crise humanitaire actuelle. Interrogé, le médecin chef de zone de la zone santé de Minova a indiqué que ce lot de matériel comprend, entre autres, un kit pour accouchement normal et anormal, des appareils de transfusion sanguine et des produits de prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Chaque infirmier titulaire recevra son lot de matériel conformément aux besoins ressentis dans son secteur, a indiqué enfin Gisèle Kassongo. Minova, Ezekiel Patounike, Radio Communautaire Boupantano pour Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question des Nations Unies.
Je m'appelle Landou Norbert, je suis boulanger à Kinshasa. Ma question, je la pose à l'UNICEF. La guerre entraîne de flux de déplacés dans le Nord Kivu. Beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école. Les écoles sont soit pillées, soit servent d'abri aux déplacés. Comment l'UNICEF compte-t-elle aider les milliers d'enfants à retourner à l'école dans cette province?
Merci Norbert. Nous avons joint au téléphone Adrien Moujarel, officier de communication humanitaire à l'UNICEF, et voici sa réponse.
Effectivement Norbert, comme vous le soulignez, on estime que depuis septembre, des familles et les différentes parties impliquées dans le conflit ont occupé ou pillé près de 250 écoles supplémentaires dans le nord et le sud Kivu. Cette année, au total, ce sont plus de 600 écoles qui ont été ainsi utilisées comme cuisine, cantine, dortoir, caserne ou entrepôt de munitions. Dans presque toutes les classes touchées par le conflit, le mobilier scolaire a été partiellement endommagé ou même totalement détruit. Les manuels scolaires et les bancs d'école ont même été utilisés comme workshop. Aujourd'hui, il est crucial que les élèves et les enseignants reprennent le chemin de l'école pour de nombreuses raisons. L'éducation est bien sûr un outil pour apprendre et préparer le futur, mais c'est également un outil de protection, extrêmement important dans une situation d'urgence comme celle que connaissent actuellement le Nord et le Sud Kivu. Lorsqu'ils ne sont pas à l'école, les enfants ont plus de risques d'être exploités, abusés et même recrutés. Ensemble, avec nos partenaires d'ONG International et le ministère de l'Éducation, nous mettons tous les moyens en œuvre pour que les écoles puissent rouvrir. Nous reconstruisons des bancs, réhabilitons les écoles endommagées et nous distribuerons d'ici la fin de cette année plus de 80 000 kits scolaires. Nous estimons qu'au moins 240 000 élèves ont manqué de semaines de scolarité à la suite du conflit depuis avril. Dans le cadre de ces interventions d'urgence à l'est de la RDC, l'UNICEF et nos partenaires prévoient de couvrir les besoins éducatifs de l'ensemble de ces enfants.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Oui, bonjour, je suis Florence Marchal, je suis la chef de la communication du programme des Nations Unies pour le développement ici à Kinshasa et je suis française. J'ai une formation de journaliste, j'ai fait une école de journalisme en France que j'ai complétée ensuite par une formation en multimédia, en gestion de sites web et je suis arrivée au programme des Nations Unies pour le développement RDC en janvier 2010. Mon travail consiste à faire connaître les activités du PNUD ici en RDC et hors de la RDC, de communiquer sur ce que nous faisons et les divers outils que nous utilisons. Ce sont des publications, le site web, des émissions sur Radio Capi comme maintenant, la conférence de presse, One UN du mercredi et puis évidemment et aussi un rôle de conseiller auprès des directeur pays en matière de communication. Alors, mon parcours est en deux temps, ma vie professionnelle est en deux temps, une première partie, les 15 premières années dans le journalisme, toujours en télévision, en France. D'abord reporter sur le terrain dans ma région natale, la Lorraine, qui est à l'est de la France et qui m'a valu vraiment de très très beaux souvenirs journalistiques. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'actualités, malheureusement des fermetures d'usines, des choses comme ça, mais des choses très fortes qui chargées d'émotions et qui m'ont vraiment marquée. Ensuite, je suis devenue chef d'édition pour des journaux à l'échelle nationale, donc l'équivalent du journal de 20 heures, donc avec une pression un petit peu différente. Et puis au tournant des années 2000, avec l'arrivée du web, j'ai souhaité ne pas rater cette opportunité et je me suis lancée dans le multimédia et je suis devenue chef de projet web pour une grande chaîne d'information en France. au même moment l'envie de m'engager de façon beaucoup plus citoyenne dans ma vie professionnelle ne m'avait jamais quittée, mais cette envie était plus forte et j'ai commencé à postuler pour des postes au sein d'organisations internationales. Et c'est ainsi que mon premier job au sein d'une organisation internationale, c'était en 2001 au Conseil de l'Europe, qui est une organisation pan-européenne qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale pour éviter qu'il y ait à nouveau la guerre en Europe. Et j'étais à ce moment-là à Lisbonne, en poste à Lisbonne. Ensuite, je suis une de mes grandes autres expériences, c'est le Kosovo, où j'étais là-bas dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Et dans les années de... J'y suis allée une première fois en 2008 et puis une première fois en 2004 et puis après j'y suis retournée en 2006 à 2008. Alors outre écrire, j'écoute de la musique congolaise mais aussi française, internationale. Bon, je suis quand même très... très musique française, j'avoue. J'ai beaucoup aimé l'histoire du staff Bendabilili aussi ici au Congo et ça a permis aussi avec les amis en France à créer un lien et c'est ce genre de choses aussi qui fait que les amis qui souvent comprennent pas pourquoi vous êtes partis. Franchement, ils vous disent mais qu'est-ce que, enfin voilà, t'étais à Paris, t'étais journaliste, pourquoi tu t'es parti à 6000 km de nous, à l'autre bout du monde, dans un pays où on nous parle souvent malheureusement de crise, etc. Et des films où l'histoire du staff Bendabilili, ben, là ils entendent parler de la RDC d'une manière complètement différente. Et ça crée de vraies passerelles.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Agenda de la semaine, une date à retenir, le 22 décembre. En effet, la MONUSCO sollicite des manifestations d'intérêt de la part des entreprises dûment enregistrées et autorisées pour fourniture pour des unités mobiles de dépistage global pour actifs aériens militaires à Kinshasa, RDC. Les manifestations d'intérêt peuvent être soumises par courrier électronique monusco-procurement@un.org. en main propre ou par service courrier, au plus tard le 22 décembre à 15h, heure de Kinshasa. C'est déjà la fin de cette émission. Jean-Pierre Elali l'a coordonnée. Honoré Missenga était au reportage. Elle a été supervisée par Nicole Ngaka et Mila Kinguini a eu le plaisir de vous la présenter. Vous nous avez pris de court. Rendez-vous à 19h03 pour la rediffusion de ce magazine. Votre magazine est aussi à suivre à partir de l'internet sur www.radiocapi.net. Écoutez, commentez et posez des questions. Vous pouvez aussi nous appeler au 082 30 76 630.